Quand je ne suis pas à la radio à vous parler de culture, j'officie aussi à France Télévisions. Je suis une fille du service public, que voulez-vous ? Dans mes activités télévisées, j'annonce souvent, trop à mon goût, des mauvaises nouvelles. C'est un curieux métier, vous savez. Ma tâche consiste à vous transmettre une information en veillant à ne pas donner mon avis et en essayant de restituer au plus près le réel. La notion d'objectivité m'a toujours interrogée. Suis-je parfaitement objective quand pour relayer un fait, j'ai à ma disposition tout un arsenal de mots qui sont toujours plus ou moins connotés ? Autre difficulté de mon métier, ne pas être pris de court, ne pas être battu par l'information en direct, et ça demande un peu de préparation. Je vous raconte un peu les coulisses de mon métier. À peu près toutes les deux semaines, je m'astreins à un exercice qui va vous sembler épouvantable. Je prépare des nécrologies. Je passe en revue les personnalités du monde politique ou culturel qui sont soit très âgées, soit malades, et j'écris. En gros, j'enterre avant l'enterrement. Je réunis toutes les informations importantes de la vie du défunt et je rédige à l'avance quelques phrases pour annoncer sa disparition. Je vous avoue que j'ai toujours peur de précipiter la mort quand je fais ça. Mais je n'ai pas le choix. Cette activité de croque-mort cathodique demande un peu de tact. Le jour de la mort d'une personnalité, l'heure n'est pas à la critique directe. On a beau connaître des épisodes peu reluisants de sa vie, le jour de la mort, on plisse un peu les yeux et on ne garde que les grandes lignes d'une vie. Toutes les deux semaines, je remets mon fichier à jour, j'efface ceux qui sont morts les jours où je ne présentais pas et j'ajoute de nouveaux venus, avec toujours cette crainte, annoncer la disparition d'une personne que je connais ou dont j'aime le travail.
France Inter. Duh. Le Mac de l'été. Leïla Kadour.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Mac de l'été, votre rendez-vous culture tous les jours de la semaine sur France Inter pour vous parler de tout ce qui nous met en joie. Aujourd'hui, une grande plume du journal Le Monde, la grand reporter Raphaël Baquet. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Entre mes mains, Kaiser Karl aux éditions Albin Michel, votre dernière enquête au long cours sur le plus fantasque des grands couturiers, Karl Lagerfeld, à lire de toute urgence et d'une traite. Parce qu'au-delà du personnage, vous racontez aussi un monde, vous racontez une époque. Raphaël Baquet, est-ce que vous avez déjà eu à écrire un article sur la disparition d'une personne que vous connaissiez bien, comme je l'évoquais dans mon édito ?
Ah oui, d'abord au Monde, effectivement, on a une section, si je puis dire, remplie de nécrologie. Ouais. Et très souvent, ça m'est arrivé, à vrai dire, beaucoup de personnalités pensent à qui rédigera leur nécrologie.
C'est vrai, ils demandent.
Et ça m'est arrivé deux fois, je me souviens très bien, pour Michel Rocard, comme pour Charles Pasqua, ouais. Je suis allée les voir pour compléter des choses en vue de faire leur nécrologie, et ils en étaient parfaitement conscients. Et je me souviens très bien d'ailleurs d'avoir quitté Charles Pasqua, et il m'a serré la main, il m'a dit « Je crois que c'est le seul article de vous que je ne lirai jamais.
» Ça doit être quand même étrange de prendre rendez-vous en se disant qu'on va récolter des infos pour l'article qui paraîtra le lendemain de la disparition de l'interviewé.
Je pense que des personnalités qui ont eu une action publique importante ou artistique, bien sûr, ont souvent à cœur d'ailleurs de laisser quelque chose à la postérité. Et la nécrologie, d'une certaine façon, en fait partie. Et donc... très souvent, j'ai noté que les gens y faisaient attention. Et ils demandent d'ailleurs, hein, parfois, qui va rédiger ma nécrologie. Alors, on ne leur répond jamais. Mais ce n'est pas si morbide que cela. Au contraire, c'est une façon de préparer l'après et la transmission.
Et vous aimeriez que ce soit qui, vous concernant?
C'est un peu. Je doute d'avoir une très grande notice.
Si, moi, je pense que vous aurez une très belle notice. En tout cas, moi, je me suis réjouie à la lecture de Kaiser Karl chez Albin Michel, parce que j'adore vos textes, j'adore vos enquêtes, vos récits, on va voir ensemble comment on peut qualifier, on peut genrer ce genre de texte. Est-ce que vous saviez que Karl Lagerfeld était malade ?
Oui, ça circulait pas mal dans le milieu de la mode, notamment depuis déjà 2 ou 3 ans,
ouais.
Avant sa mort réelle.
Parce que votre livre est sorti moins de 4 mois après sa disparition.
Mais je l'avais entamé 2 ans avant.
Avec cette série d'articles dont on va parler, qui était sorti à l'été 2018. Est-ce qu'on se dit aussi, il faut aller vite, il faut sortir le livre vite ?
Non, à vrai dire, sa mort m'a un peu prise de court.
C'est vrai,
Je n'avais pas l'intention de le sortir forcément là cet été, mais c'est vrai que une fois qu'il est mort, il y a eu une telle modification, c'est très rare ça. Il y a eu une telle modification dans l'enquête d'une certaine façon, parce que les témoins se sont soudain libérés.
la que, parole se libérer. Ouais.
Voilà, ça a changé le cours de mon enquête et ça a changé aussi un peu la physionomie de mon livre.
Qu'est-ce qui avait commencé à vous intriguer chez lui au point de lui consacrer tout votre temps pendant de longs mois d'enquête? Au début, c'est quoi l'élément, l'étincelle qui vous dit « tiens ».
La mode n'est pas mon milieu, d'abord. Hein. C'est un milieu sur lequel je n'avais jamais enquêté, d'ailleurs. Donc, c'est un milieu qui m'intéressait comme ça, mais d'un peu loin. Mais, en revanche, c'est vrai qu'il y a quelques années, je le raconte juste au début du livre, en 2010, j'étais allée en Chine en reportage, et je m'étais perdue. Et le vieux paysan qui m'avait secouru, qui m'avait montré le chemin avec sa vieille guimbarde, avait un Pins Karl Lagerfeld. Et je m'étais dit, alors là, vraiment, ça, c'est la mondialisation triomphante. Parce que si au cœur même de la Chine, un paysan qui doit à peine savoir quand même qui est Karl Lagerfeld connaît en tout cas suffisamment son effigie, sa silhouette pour emporter un Pins, c'est vraiment incroyable. Et c'est vrai que ce qui a aiguisé après ma curiosité, c'était de constater qu'il n'y avait aucune biographie de cet homme pourtant mondialement connu. Et donc, je me suis plongée dans son histoire.
On va faire quelque chose d'assez inhabituel. Pour commencer cette émission, on fait les choses à l'envers. Raphaël Baquet avec un questionnaire la dernière fois.
Moi, la dernière fois, ça remonte plus loin.
La dernière fois, Raphaël Baquet, que vous avez perdu votre téléphone avec tous vos contacts.
Ça, c'est un drame. Et là, ça m'est arrivé au moins deux fois. Donc, c'est une catastrophe, au point, d'ailleurs, ça paraît complètement délirant en 2019, mais au point d'avoir une copie écrite sur papier.
Ouais, parce que c'est quand même le cœur du métier, d'avoir tous les numéros.
Même si, évidemment, on bascule tout dans le cloud, mais c'est vrai que, bon, le papier est une forme de sécurité rassurante.
La dernière fois que vous avez peu ou pas dormi pour finir un article et le rendre à l'heure?
Hélas, très souvent.
Encore,
car,
très souvent.
J'ai une espèce de truc terrible, enfin, qui est souvent le cas chez les journalistes, qui est de jusqu'à la fin d'écrire. Et donc, j'écris très souvent mes articles la nuit.
C'est parce que vous y prenez tard ou alors parce que vous gardez le papier jusqu'au bout le plus longtemps possible en essayant de se dire.
Les deux. Parfois, j'ai du mal à commencer le début et je ne peux pas écrire un papier si je n'ai pas la première phrase. Donc c'est vraiment névrotique.
Et ça peut prendre beaucoup de temps à trouver.
Ça peut prendre beaucoup de temps.
C'est l'accroche en même temps, c'est ce qui fait vraiment l'effet du papier, c'est là que ça joue.
Exactement.
La dernière fois que vous êtes fait doubler pour une enquête?
Ah, hélas, oui, ça m'arrive aussi, je dois dire. Ça arrive souvent, quand même. Les confrères sont aussi accros sur l'information.
Oui, on peut se faire doubler et il faut abandonner le sujet ou alors il faut trouver un autre angle pour le traiter.
Oui, on change de sujet souvent.
La dernière fois que vous avez pleuré au cinéma, Raphaël Baquet?
Quand est-ce que j'ai pleuré au cinéma? Ah, écoutez, oui, il n'y a pas très longtemps, à vrai dire. J'ai voulu que ma fille voie L'Incompris de Comencini. Et alors là, j'ai pleuré comme j'avais déjà pleuré 20 ans auparavant lorsque je l'avais découvert.
Ça marche toujours.
Ah oui, c'est vraiment...
Qu'est-ce qui vous a ému?
Terriblement tragique. Ah, cet enfant... Ah non, vraiment, c'est un film magnifique et terrible.
La dernière fois que vous vous êtes dit en lisant un livre, j'aurais adoré écrire ces mots-là.
Très souvent. Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est My Absolute Darling, dont je perds à l'instant le nom de l'écrivain, mais c'est un formidable livre, je dois dire, qui est sorti là cette année en France. Et j'aurais aimé l'écrire, mais ça m'arrive pour beaucoup de livres.
Raphaël Baquet, Kaiser Karl, c'est parti, on l'a dit, d'une série d'articles que vous avez écrits pour Le Monde l'été dernier. Vous aviez interrogé Karl Lagerfeld d'ailleurs, et il n'avait pas vraiment sa langue dans sa poche sur un plateau de télévision. Un exemple, en 2013.
L'histoire des ronds, il y a rond, demi-rond et énorme. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Ceci dit, le trou de la sécurité sociale, c'est quand même toutes les maladies attrapées par des gens trop gros aussi, hein.
Pas que.
Ah, mais alors... beaucoup quand même. Ça en pourrait quand même boucher un petit trou.
Voilà, on aurait pu faire une compilation d'une heure, rien qu'avec ce type d'intervention, de phrases un peu assassines. On le connaît un peu comme ça, Karl Lagerfeld, hein. C'est cet animal médiatique, à l'aise, qui est jamais avare d'un bon mot. Il pouvait être cruel, on le découvre aussi dans votre enquête, et mériter tout d'un coup ce surnom de Kaiser dont la presse américaine l'avait affublé.
Oui, il pouvait avoir, c'est ce qu'un peu j'ai découvert au fond en enquêtant sur lui, il pouvait avoir à la fois des attentions charmantes, hein, il y a toute une correspondance, j'ai rencontré énormément de gens qui avaient des lettres, des dizaines et des dizaines de lettres, de petits messages tendres de Karl Lagerfeld, et puis par ailleurs, il pouvait vous assassiner, pas seulement d'un bon mot, mais vous virer. Il a quand même aussi renvoyé des collaborateurs, des employés de chez Chanel, la directrice de son studio. Je raconte justement comment la directrice de son studio, Karl Lagerfeld, donc de sa propre marque, qui au bout d'un moment l'agaçait parce qu'elle commençait à trier trop dans ses dessins. Il est arrivé un jour et c'était une manie chez lui, et un talent d'ailleurs, de dessiner toujours ses collaborateurs. Ce jour-là, il se met à dessiner tous ses collaborateurs habillés à la mode révolutionnaire, oui. Habillés 18e et fin 18e. Et quand il arrive à elle, il dessine simplement sa tête tenue par les cheveux, par une main, le cou ensanglanté, et elle a la tête coupée, et il lui a dit « Merci pour ce formidable... en souvenir de ce défilé. » Et elle a compris qu'elle était virée, et effectivement, dès le lendemain, elle était licenciée.
Et il l'exprime par un dessin, c'est son mode d'expression préféré.
Donc il pouvait être très cruel, oui.
Il s'est toujours opposé à ce qu'une biographie paraisse, le concernant. Comment est-ce qu'il a réagi déjà, après la série d'articles que vous lui avez consacrés ?
Rien.
Pas un mot, c'est étonnant.
En fait, la méthode Karl Lagerfeld, c'était, je l'ai compris après, c'était soit de couvrir de fleurs ceux qui effectivement écrivaient des papiers laudateurs ou qui étaient quand même assez nombreux, il faut bien le dire, sur lui, soit de vous empêcher d'écrire à la moindre enquête, et il l'a fait beaucoup, soit de ne rien dire du tout lorsqu'il était à la fois incertain de ce que vous aviez fait sur lui. Est-ce que c'était pour l'étrier ou est-ce que c'était pour le combler ? Donc, ce qui est intéressant surtout, c'est sa façon d'avoir empêché toutes les biographies avant. Hein. Il est certain que quand on est un personnage comme lui avec un pied dans Chanel et un pied dans LVMH, oui. avec Fendi, vous tenez en fait toute l'industrie du luxe, et bien plus que l'industrie du luxe. Vous tenez la presse, d'une certaine façon, puisque oui. Ce sont les deux plus gros annonceurs, évidemment, de la presse. Et vous tenez le pouvoir économique et l'industrie la plus florissante. Et donc, effectivement, il avait absolument empêché toute enquête et toute tentative d'enquête sur lui.
C'est un homme de pouvoir, c'est comme ça que vous le définissez, parce que finalement, vos sujets de prédilection, ce sont les hommes de pouvoir, on va y revenir dans l'émission. Donc, il apparaît vraiment comme ça, mais alors, il réagit pas à votre série d'articles, donc on se dit méfiance, ça couvre quelque chose, vous avez déjà subi des pressions par le passé dans d'autres travaux, là, on se méfie d'un Karl Lagerfeld ?
En fait, d'abord, ça a été compliqué d'obtenir un rendez-vous avec lui. J'ai mis quand même 10 mois. Et son seul sujet d'inquiétude, en fait, je l'ai compris en avançant dans le récit de sa vie, c'était quand même ce qui s'était passé en Allemagne pendant son enfance. Et donc, il était absolument convaincu que je ne retrouverais pas de témoin, et d'ailleurs que je n'irais même pas en Allemagne. Il pensait que la paresse aidant, la facilité, j'irais pas très loin. Et donc, c'était ça sa certitude. Elle n'ira pas fouiller là.
Et elle a été fouillée.
Et j'y suis allée, parce que d'abord, en bourse, c'est quand même assez facile. Et même si la ville a été bombardée, contrairement à ce qu'il disait, parce qu'il m'avait dit « de toute façon, tout le monde est mort », non, c'est pas vrai, tout le monde n'est pas mort. Et il reste encore des témoins qui ont connu Karl Lagerfeld enfant, qui ont connu sa famille aussi.
Et qui ont connu un père embarrassant pendant le régime nazi.
Oui. Et qui ont connu l'attitude de son père pendant la guerre, pendant le régime nazi. Donc son père était un grand industriel, Otto Lagerfeld, qui ressemble d'ailleurs à bien des aspects à son fils, non pas physiquement, parce que Karl Lagerfeld est plutôt le portrait de sa mère, mais en revanche, un industriel polyglotte, très cultivé, assez séduisant, il faut bien le dire, par sa conversation, et qui, effectivement, dirigeait une filiale des entreprises, plusieurs usines de lait concentré, et au moment de l'avènement d'Hitler, et plus encore de la déclaration de la guerre, alors que cette filiale d'une entreprise américaine devrait être saisie, il négocie avec le régime pour pouvoir continuer à diriger son entreprise, il fournit même d'ailleurs la Wehrmacht, l'armée allemande, en lait concentré, et ça, son fils a fait absolument des tentatives désespérées, il a multiplié toutes les tentatives négatif pour faire oublier ce qu'avait fait son père pendant la guerre.
Des mensonges.
Plein de mensonges.
Disant que son père était un baron suédois.
Un suédois ou un danois. Ouais. En tout cas, tout sauf allemand. Et ce qui m'a frappé, c'est que, en remontant effectivement les milliers d'interviews que Karl Lagerfeld a distribuées dans la presse mondiale, j'ai été très frappée de voir la multitude de mensonges concernant son père, ou l'effacement d'ailleurs pur et simple de son père, de son autobiographie, et vraiment sans souci d'ailleurs de se contredire, puisque effectivement, il peut dire dans une interview de 1970 que son père est danois, et en 1972 il dit qu'il est suédois, et il n'y a aucun problème, si vous voulez, et personne d'ailleurs ne l'a jamais mis face à ces mensonges.
Ça a dû le rendre fou.
De quoi que...
De dévoiler tout ça.
Ah, en tout cas, oui, ça c'est sûr que c'était...
Il a passé toute sa vie à le cacher.
C'était quelque chose dont il ne voulait absolument pas parler, alors qu'au fond... Alors évidemment, toute une génération d'Allemands, des Allemands de son âge, ont demandé des comptes à leurs parents. Lui, il a préféré plonger dans la frivolité et d'une certaine façon effacer cet aspect-là de son passé.
Voilà un avant-goût de Kaiser Karl à lire aux éditions Albin Michel, 18h32 sur France Inter. On écoute tout de suite le son du jour, c'est I Think de Tyler the Creator. Raphaël Bach est toujours avec nous dans le Mac de l'été sur France Inter pour Kaiser Karl, son livre enquête sur le grand couturier. Mais que se passe-t-il d'autre aujourd'hui dans le monde de la culture? Eh bien, il suffit de demander le programme.
C'est un cri d'amour.
Évidemment, il faudrait un peu de sentiment et je me demande...
Je t'interdis.
Toutes portes ouvertes en plein courant d'air.
Corinne Marchand, Michel Legrand, Cléo de 5 à 7, d'Agnès Varda. Sur grand écran et gratuit ce soir au programme du cinéma en plein air de l'Institut Lumière à Lyon. Un petit bijou de la nouvelle vague, un film d'une folle liberté à voir avec des gens que vous aimez. Cléo de 5 à 7, c'est aussi se dire qu'Agnès Varda, en plus d'être une fabuleuse cinéaste, était une parolière de génie. C'est elle qui signe le texte « Sans toi, j'en ai encore des frissons ».
Vous êtes bien grossière pour une femme dont le tonton est pharaon.
Et oui, je peux me le permettre, mon tonton Toutankhamon cartonne. L'expo à la Grande Halle de la Villette vient de passer le cap du million de billets vendus. Succès pharaonique et pour fêter ça, on joue les prolongations. Une semaine de rab pour découvrir les 150 merveilles issues du tombeau royal. Reste à voir si Toutankhamon battra le record de Toutankhamon qui avait réuni 1 200 000 visiteurs en 67 au Petit Palais. Rendez-vous donc jusqu'au 22 septembre. Il reste des places. Après, bye bye, le pharaon continue sa tournée de rockstar à Londres. Ne vous étonnez pas si votre meilleur ami ne répond pas au téléphone depuis quelques jours. Il était en train de regarder la saison 3 de Stranger Things sur Netflix. Et il n'était pas tout seul. Près de 41 millions de foyers se sont connectés depuis le lancement le 4 juillet. Et déjà 18 millions ont vu en entier les nouvelles aventures des Kids Dawkins. C'est le meilleur démarrage pour une création originale de la plateforme.
Leïla Kadour, le Mac de l'été sur France Inter.
Et Kaiser Karl sur France Inter avec Raphaël Baquet. Karl Lagerfeld avait le goût du secret. On a évoqué ce père embarrassant sous le régime nazi. Sa maladie aussi, qu'il a cachée. Dans les deux cas, on pense quand même aux zones d'ombre de François Mitterrand.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, évidemment, il avait observé comment François Mitterrand lui-même avait tenu en respect la maladie et caché son cancer. Lui a fait la même chose, c'est-à-dire qu'il s'est soigné. Il s'est soigné d'abord, hein, vraiment ardemment pour pouvoir continuer à travailler. C'était un homme aussi qui détestait la maladie et que la mort terrifiait manifestement. Mais il l'a fait dans le secret le plus total et même ses plus proches collaborateurs ne le savaient pas. Il allait à l'hôpital américain seulement accompagné de Sébastien Jondot, son garde du corps, hein, et un peu homme de compagnie, si on peut dire, mais sans jamais lui dire quoi que ce soit sur la réalité de sa maladie.
Sa vie était consacrée au travail. Il disait « Je ne suis pas amoureux, je suis amoureux de mon travail ». C'était vraiment une constante, c'était du matin au soir, il semblait inépuisable, comme s'il voulait repousser les limites du temps pour continuer à créer. Il y a quand même un homme qui a un peu traversé sa vie, qui a été important.
Oui, qui est Jacques de Bachère, qui est le seul amour qu'on connaisse à Karl Lagerfeld, qui est un amour assez particulier, d'abord à cause de Jacques de Bachère, et puis pour la nature de cet amour, parce que c'est un amour au fond sublimé, dans lequel la sexualité tient peu de place. Oui. Elle a d'ailleurs été... Karl Lagerfeld a toujours dit assez tôt qu'il y avait renoncé, d'une certaine façon, puisque sa seule jouissance, effectivement, c'était le travail. Mais Jacques de Bachère est tout de même son amour, c'est vrai. Alors c'est un personnage qui est presque le contraire de Karl Lagerfeld, hein. C'est un dandy assez paresseux, oisif, qui se fait entretenir par Karl Lagerfeld, qui est à la fois charmant, très beau, un peu pervers, qui couche avec tout ce que Paris connaît, compte de jolis garçons dans les années 70 et 80.
Les belles années, quoi.
Et voilà. Et qui va devenir, non seulement le compagnon, mais la muse de Lagerfeld, et surtout son envoyé spécial, en fait, dans le monde de la nuit. Puisque, évidemment, quand on travaille autant que Lagerfeld, ça suppose une discipline de fer, et donc Lagerfeld se couchait tôt, à vrai dire.
Il ne buvait pas.
Il sortait assez peu, il ne buvait pas, ne se droguait pas, couchait à peine, et se couchait tôt. Et en revanche, Jacques de Bachère allait, lui, traverser les nuits folles des années 70, et le lendemain, à 18h, retrouvait Karl Lagerfeld pour lui raconter à la fois les potins, mais aussi les tendances, l'humeur, l'air du temps.
Et Jacques de Bachère était aussi cette muse qu'il avait en partage avec son principal rival, un certain Yves Saint-Laurent.
Moi, je suis absolument contre la mode longue. Je crois que les femmes ont des jambes à montrer parce que c'est un privilège qu'elles ont sur nous et il faut qu'elles l'exploitent au maximum.
Est-ce que vous pouvez nous résumer votre collection? Il y a beaucoup d'inspirations différentes.
D'abord, j'aime le noir, j'aime le jersey, j'aime les faux bijoux, j'aime beaucoup de choses. Mais j'aime surtout une femme mince, une femme jamais encombrée par de gros tissus, toujours des tissus assez légers, comme vous avez pu remarquer, ou des tissus souples qui mettent en valeur qui laissent deviner son corps. Je déteste les formes raides, architecturées et construites.
Yves Saint-Laurent qui avait aussi en partage une certaine vision de la mode avec Karl Lagerfeld.
Oui, bien sûr. D'abord, ce qui est extraordinaire dans leur histoire, c'est qu'ils gagnent ensemble la même année un concours de mode. Hein, Karl Lagerfeld a 21 ans, Yves Saint Laurent en a 18 à ce moment-là, en 1954. Et c'est vrai qu'ils sont tous les deux avec une troisième lauréate, une jeune femme qui va disparaître dans les oubliettes de l'histoire. Mais eux, au contraire, ils vont régner sur la mode. Et c'est intéressant d'entendre la voix de Saint Laurent parce que ça dit quelque chose de la différence de leur personnalité. Vous entendez cette voix un peu fragile, légèrement efféminée, et qui contraste tout à fait avec l'accent qui martèle et la voix très autoritaire hein, que Lagerfeld a adopté en fait lorsqu'il a eu 35-40 ans. Car quand on entend les premiers sons de Lagerfeld aussi à 25-27 ans, il a une voix aussi beaucoup plus douce et un accent moins prononcé qu'il ne l'aura plus tard.
Comment vous y êtes pris justement pour recueillir ces témoignages quelques temps après la disparition de Karl Lagerfeld pour essayer de retracer votre vision enquêtée de Karl Lagerfeld? Mais qu'est-ce qu'on se refuse de faire dans ces cas-là? On se place où la limite?
Dans l'enquête, faut pas poser de limites. Ouais. Après, c'est dans l'écriture que d'abord on s'interdit les obscénités ou les viols d'intimité qui seraient vraiment insupportables. Mm-hmm. Mais pour savoir jusqu'où s'arrêter, encore faut-il savoir justement. Et donc il faut enquêter. Et il faut enquêter tous azimuts, retrouver à la fois les proches et les moins proches. Se faire raconter des scènes, reconstituer des décors.
Instaurer une relation de confiance aussi, j'imagine.
Oui. Et puis souvent, et c'était le cas pour Karl Lagerfeld, mais ça m'est arrivé pour d'autres personnalités, souvent les gens qui ont côtoyé quelqu'un d'exceptionnel, et Karl Lagerfeld l'était, c'était vraiment un homme hors du commun, d'une certaine façon, ces gens-là ont envie de raconter cette histoire qui a jeté eux-mêmes sur leur propre vie quelque chose, une lumière tout à fait inhabituelle.
Un homme de pouvoir, on a parlé de François Mitterrand, vous avez aussi beaucoup travaillé sur Jacques Chirac, vos premiers écrits d'ailleurs c'était sur lui, vous l'avez même suivi pendant ses campagnes présidentielles. Karl Lagerfeld, un autre homme de pouvoir à sa façon, est-ce que vous pourriez vous intéresser, Raphaël Baquet, à la vie d'une personne qui ne dispose pas vraiment de pouvoir?
Oui, mais c'est vrai que le pouvoir est intéressant parce qu'il transforme les hommes et les femmes. Mmh. Et donc, évidemment, la façon dont tel ou tel peut être modifié, c'est ça qui m'intéresse. Mais parfois, je plonge dans la vie de gens qui ne sont pas forcément connus, si vous voulez. Quand je me suis intéressée au patron de Sciences Po, Richard Descoings, personne, à vrai dire, sauf les étudiants de Sciences Po, personne ne savait qui était Richard Descoings. Et pourtant...
C'était passionnant, d'ailleurs.
Voilà. Et pourtant, cet homme dirigeait, justement, l'école du pouvoir, et il avait lui-même une vie incroyablement tumultueuse. Il avait embarqué toutes les élites françaises derrière lui, et sa vie était intéressante. Et donc, on n'est pas... le pouvoir, c'est pas forcément la notoriété. Mais c'est vrai que ça permet de... C'est comme une espèce de précipité des passions humaines, quand même.
Une sorte de catalyseur aussi. Ouais. Il est venu le temps, Raphaël Baquet, de rembobiner dans cette émission. Tous les jours, on fait revivre une voix qu'on a envie d'entendre pour faire réagir notre invité. Dans votre transistor, Raphaël Baquet, j'ai choisi l'avocat Jacques Vergès. Il prend la parole au moment du procès Klaus Barbie.
Je pense que Barbie est un personnage très moderne.
Maître Vergès.
Et par cela, très représentatif. Et par cela, je dirais presque, au risque d'offusquer certains, très banal. Barbie est aujourd'hui l'officier subalterne d'une armée d'occupation dans un pays qui résiste. C'est l'officier américain au Vietnam, c'est l'officier russe en Afghanistan, c'est l'officier français en Algérie. Dire cela, ce n'est pas exonérer Barbie de ce qu'il a fait. C'est resituer son personnage dans notre époque.
J'ai choisi de vous faire entendre la voix de Jacques Vergès parce qu'il y a quelques années, c'était en 2013, j'ai un souvenir très précis, vous aviez écrit un article décrivant son enterrement. Et cet article m'avait beaucoup marqué et c'est comme ça que j'ai commencé à vous suivre de façon complètement assidue. Dès que je voyais écrit Raphaël Baquet, hop, j'y allais. C'est comme ça que s'ouvre Kaiser Karl sur le récit de son enterrement. Pourquoi c'est un moment important à documenter?
Parce qu'aux enterrements, évidemment, la compagnie, si je puis dire, qui se presse à un enterrement, les discours qui peuvent y être prononcés disent toujours quelque chose du défunt. Et pour Jacques Vergès, c'était le cas. Il y avait à la fois d'anciens héros du FLN et de la guerre d'indépendance en Algérie. Il y avait des personnalités d'extrême droite. Il y avait Dieudonné, je me souviens, qui avait une espèce de grand Bermuda dans une église. C'était tout à fait étonnant. Et vraiment, l'enterrement de Jacques Vergès racontait, au fond, cette espèce de multiplicité de compagnonnage. Et,
il y a ceux qui ne sont pas là aussi.
Et il y a ceux qui n'étaient pas là, bien sûr. Il y avait pas tellement en fait d'avocat. On voyait que son côté provocateur l'avait d'une certaine façon distingué de sa confrérie d'origine, mais en revanche, il y avait toute une série de pièces rapportées de ces différentes étapes et provocations politiques.
Il pourrait vous intéresser Jacques Vergès comme personnage ?
Bien sûr, et d'ailleurs je l'ai rencontré. Et oui, bien sûr, je me souviens très bien d'ailleurs de cette rencontre. Il habitait dans un appartement incroyable avec toute une collection d'échiquiers. Et avec ce visage asiatique, très particulier, cette grande érudition et cette provocation parfois insupportable.
Dans le Mac de l'été, on a poussé les murs pour faire une petite place à la poésie. Tous les jours dans cette émission, Raphaël Baquet, il y a une grande voix de France Inter, bien connue des auditeurs, qui nous lit un texte.
Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront « Il est l'heure de s'enivrer ». Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse. De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise.
Vous l'avez reconnu, merci Rebecca Manzoni, que vous retrouvez à la rentrée pour une collection inédite de Pop & Co dans le 7-9 de France Inter tous les jours à 7h20. Rebecca, pourquoi avoir choisi ce texte ?
Alors c'est un poème qui s'intitule « Enivrez-vous » qui est signé Baudelaire et je l'ai choisi parce que c'est un poème que j'ai vu et entendu par Serge Reggiani. Dans une archive, il était face à Denise Glaser, dont je suis fan au passage, immense intervieweuse pour moi. Et Reggiani dit ce texte comme s'il nous parlait, comme si ça faisait partie de la conversation. Et ça m'a bouleversée de l'entendre et de le voir dire ça. Ça m'a bouleversée déjà parce qu'il y est question d'ivresse. Et évidemment, Reggiani, l'ivresse, il a connu. Et je suis quasi certaine que parfois c'était vraiment une ivresse de désespéré. Donc c'est son interprétation à lui qui me touche énormément, et puis ensuite parce que c'est un poème sur le temps, et qui m'arrive assez régulièrement d'être dans une course contre le temps. Pour la vie, où faut rentrer, ok, y aller de voir les Playmobil, un peu de lecture, enfin voilà. On est dans une course permanente, il y a quelques semaines de ça, je lisais un papier dans Le Monde qui s'intitulait « La dictature de l'impatience », et ça m'a énormément parlé. Enfin voilà, cette course contre le temps, pour moi ce poème l'évoque, et l'ivresse est une solution pour y échapper. Et ce qui me plaît beaucoup aussi, parce que l'ivresse c'est un peu, c'est évidemment planer quoi, c'est se dégager du corset du temps. Et ce que je trouve très beau, c'est que la fin s'adresse aux déraisonnables autant qu'à ceux qui sont rangés des voitures. Parce que ça dit « de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise ». Donc ça s'adresse vraiment à tous. Et la dernière chose, dans le rapport au temps, c'est que là, c'est le début de l'été. Donc, en une des magazines qu'on dit féminin, il y a toujours l'injonction à la jeunesse, la minceur et tous ces trucs très emmerdants. Donc concernant ce rapport au temps, moi j'ai 46 ans, donc je suis évidemment plus sensible à ça qu'avant. Mais j'ai juste envie de dire, lâchez-nous la grappe. J'ai envie, si je me sens bien avec mes cernes, mes bajoux qui peuvent tomber comme des côtelettes ou je ne sais quoi, et que je suis bien avec, cessez de m'emmerder avec ça. Et j'aurais envie de dire à tous ces gens, enivrez-vous de vin, de poésie ou de vertu à votre guise.
Le pouvoir de la poésie, merci Rebecca Manzoni. Enivrez-vous, Raphaël Baquet. Vous, est-ce que vous lisez de la poésie? Est-ce que vous vous enivrez à travers les vers de grands poètes?
Ah bah oui, bien sûr. Et oui, bien sûr, j'aime beaucoup la poésie. J'aime beaucoup ce poème que je connaissais, bien sûr. Et puis ma fille est en cagne, alors je relis avec elle. J'ai relu avec elle pas mal de poésie, j'en ai découvert d'autres.
Dès que vous aurez un peu de temps devant vous, je crois que ça approche là, les vacances, quelle est votre prochaine envie de culture, de lecture, de film à rattraper, pour pleurer à nouveau, pour rire?
Ben justement, vous voyez, je vais partir en vacances et l'une des joies du départ en vacances, c'est pas tellement de faire sa valise, c'est de choisir les livres qu'on va emporter.
Oui.
Donc ça, c'est vraiment un plaisir très particulier. Et d'ailleurs, je fais toujours une liste de tous les livres dont qu'on me conseille ou dont je lis au détour d'un article qui peuvent être intéressants.
Et alors là, il y a déjà un livre sur la pile, oui, en priorité.
Il va falloir que je trie, justement.
Oui, il va falloir trier ça. En tout cas, nous, on vous recommande Kaiser Karl de Raphaël Baquet aux éditions Albin Michel, parce qu'on a parlé non seulement des révélations de cette enquête, mais ça va au-delà. C'est aussi votre style, c'est aussi votre écriture qu'on a plaisir à retrouver. J'ai envie de vous demander, Raphaël Baquet, même si vous venez de publier ce livre, le prochain, c'est pour quand? Est-ce qu'il y a déjà une idée qui germe, un personnage qui vous intrigue? J'imagine que vous n'allez pas me le dire.
Mais surtout, il faut trouver une bonne histoire. Ouais. Et ça, c'est le plus difficile. Trouver un bon personnage, riche, qui vous emmène, qui vous permette de pénétrer des milieux, raconter une époque, qui ait une vie suffisamment dense et tumultueuse, éventuellement, et qui mérite d'être racontée. Alors ça, c'est très difficile. Et j'y réfléchis souvent pendant des mois.
Une femme, peut-être, vous aviez déjà raconté dans La femme fatale, avec Ariane Chemin, livre écrit à quatre mains, le parcours de Ségolène Royal à un moment bien spécifique de sa vie.
Ouais.
Vous avez aussi signé le scénario de Numéro 1, mm-hmm, avec Emmanuel De Vos incarnant cette première femme à la tête d'une entreprise du CAC 40.
Oui, j'aimerais bien trouver une femme. Oui, bien sûr. Ah bah c'est aussi une de mes préoccupations, encore que je ne choisis pas en fonction du sexe, mais oui, bien sûr.
Donc on vous envoie sur Twitter plein d'idées,
ah oui,
amis auditeurs, inondez Raphaël Baquet sur les réseaux. Elle se fera une joie
d'étudier. Donnez-moi des idées.
Ouais, chacune de vos propositions. Je ne sais pas si vous êtes une voyageuse dans l'âme, Raphaël Baquet. Est-ce que vous aimez beaucoup voyager ou le voyage vous ennuie?
Ah non, mais quand on est journaliste, on aime forcément voyager. C'est pas forcément très loin d'ailleurs,
ouais,
mais oui, bien sûr.
Mais voyager pour le travail, c'est, ou pour mais, soi.
Les deux.
Ouais.
Mais quand on est reporter, justement, le voyage pour le travail est toujours une espèce de découverte de soi-même aussi.
Mais ici, dans le Mac de l'été, pas besoin de bouger le petit orteil. Ce qu'on préfère, ce sont les voyages immobiles, grâce à la littérature, au cinéma ou à la musique. Aujourd'hui, on s'évade avec Henri Salvador, Dans mon île, sur France Inter. À vous de choisir l'île qui vous fait rêver.
Dans mon île, ah, comme on est bien. Dans mon île, on ne fait jamais rien. On se dort au soleil qui nous caresse. Et l'on sans songer à demain. Dans mon île, ah, comme il fait doux, bien tranquille, près de ma doudou. Sous les grands coquetiers qui se balancent en silence, nous rêvons de nous. Dans mon île, fin des jours. Et la cour me tendant ses bras de cils douces et fragiles dans ses plus beaux atouts. Ses yeux brillent et ses cheveux bruns s'éparpillent sur le sable fin et nous jouons au jeu d'Adam. Ils nous ont appris l'harmonie, c'est le paradis.
J'espère que vous aussi vous vous êtes imaginé sur le bord d'une plage avec un verre, avec modération bien sûr, entre les mains, pensant comme ça à l'amour, à la vie et à tout cela. Moi je vous recommande Raphaël Baquet, vraiment à lire Kaiser Karl chez Albin Michel. Vous aurez un très beau portrait, une très belle enquête sur cet homme aux cheveux poudrés, tenu par un catogan, avec ce col blanc, ce jean slim et ce regard de myope caché par des lunettes de soleil. Le dernier mot de cette émission est pour vous, Raphaël Baquet.
J'ai envie de partir dans une île. On est dans ce studio, c'est ça le pouvoir de l'imaginaire. Il faut que vous imaginiez les auditeurs, on est dans un studio noir avec des fauteuils rouges. Il fait assez froid à cause de la climatisation, mais on a l'impression d'être parti au bord d'un hamac avec la voix d'Henri Salvador. Merveilleux, merci.
C'était un bonheur de vous avoir, Raphaël Baquet. Merci à vous d'être venu.
Merci beaucoup.
Et merci aussi à toute mon équipe, Hélène Guizio à la réalisation, Elisabeth Collet à la technique, Marie-Laurent Chéry, Raphaël Grimm-Marquis, mes essentiels, Jean-Baptiste Audibert au platine, sans oublier mes jeunes padawans, Anouk Valverde et Maëlan Loaec. Demain, le Mac de l'été prend ses clics et ses claques, direction les Francofolies de La Rochelle. Deux jours de direct, de live, de concert, de bière, avec modération, de transpiration, immersion au cœur d'un festival où il fait bon vivre. Rendez-vous à 18h avec Camélia Jordana et Gaëtan Roussel. Très très belle fin de journée à vous les amis sur France Inter.